Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 17 janvier 2025. Le Ghana et le Mali s'engagent à renforcer leurs liens en matière de sécurité. Le Soudan du Sud impose un couvre-feu nocturne après des pillages à Juba, la capitale. En RDC, les autorités prévoient la levée de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu.
On soulignait que depuis la mise en place de cet état de siège, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup plus d'exactions qui ont été commises par les groupes armés.
Bob Kabamba, politologue congolais, nous en dira plus dans la partie magazine. Le cabinet de sécurité israélien donne son feu vert à l'accord de trêve avec le Hamas. Avant son départ de la Maison-Blanche, le président Joe Biden commue les peines de près de 2500 condamnés pour des délits non violents liés à la drogue. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Eco pour l'instant le journal. Le Ghana et le Mali veulent renforcer leurs liens face à la montée du djihadisme et de l'instabilité en Afrique de l'Ouest. Le président ghanéen John Dramani Mahama et le premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, ont réaffirmé jeudi leur engagement à Accra. Alexandre Nolognon.
Les deux dirigeants se sont entretenus à Accra, le premier ministre ayant rendu visite au tout nouveau président du Ghana qui a pris ses fonctions il y a 10 jours. Notre sécurité est un objectif commun et nous devons travailler les uns avec les autres pour garantir la sécurité de notre sous-région, a déclaré John Mahama à la presse à l'issue de l'entretien. Le chef de l'État ghanéen a également salué la récente formation de l'Alliance des États du Sahel par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dirigée par des militaires qui quitteront définitivement la CDAO le 29 janvier. Le général Maïga a de son côté loué le rôle essentiel du Ghana pour la promotion du panafricanisme. Tout en remerciant le Ghana pour son soutien indéfectible, le premier ministre malien a précisé vouloir renforcer la coopération dans les domaines de l'économie et de la sécurité. La partie septentrionale du Ghana, comme le Togo et le Bénin, est de plus en plus confrontée à des incursions de groupes djihadistes.
Au Niger, l'ancien ministre du pétrole Mahamat Moustapha Barké, nommé par le régime militaire puis limogé en août, a été arrêté en début de semaine à son domicile à Niamey pour des raisons encore inconnues. Moustapha Barké avait été nommé le 9 août 2023 à la tête du ministère de l'énergie, des mines et du pétrole par le régime militaire arrivé au pouvoir quelques semaines avant. Le Soudan du Sud a instauré un couvre-feu nocturne après qu'une manifestation a dégénéré en pillage de commerces appartenant à des Soudanais hier soir à Djouba, la capitale. Claire Morin-Jibou.
Le rassemblement qui visait à protester contre le meurtre de 29 Sud-Soudanais à Wad Madani au Soudan voisin a dégénéré, donnant lieu au pillage de commerces appartenant à des Soudanais. La police a tiré des coups de feu pour disperser les manifestants. En réponse, nous avons ordonné un couvre-feu à partir de 18h, a déclaré vendredi l'inspecteur général de la police, Abraham Maniuyat, à la télévision publique. Tôt ce matin, le calme semblait revenu à Djouba malgré des tirs sporadiques. La plupart des commerces sont restés fermés et l'armée et la police étaient déployées aux principales intersections. Toutefois, de nouvelles manifestations ont débuté plus tard dans la matinée à Djouba ainsi que dans les villes de Bor, Awel et Wo. La présidence a appelé à la retenue. De nombreux citoyens soudanais résident ou se sont réfugiés au Soudan du Sud, qui a obtenu l'indépendance de son voisin en 2011, mais qui est depuis frappé par les luttes de pouvoir, la corruption et les conflits ethniques locaux.
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a averti aujourd'hui que le conflit au Soudan devenait encore plus dangereux pour les civils après des attaques ethniques ayant tué plus d'une douzaine de personnes dans l'état d'Al Jazeera. Il a mentionné des preuves de crimes de guerre et dénoncé des atrocités. Les combats dans l'est de la République démocratique du Congo ont déplacé 237 000 personnes depuis début janvier, a indiqué aujourd'hui le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés, se disant à la par l'aggravation de la violence.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent, le cabinet de sécurité israélien a donné ce vendredi son feu vert à l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas dans la bande de Gaza. Cela ouvre la voie au début de la trêve dimanche et à la libération le même jour des premiers otages. Yacouba Ouedraogo.
Après avoir examiné tous les aspects politiques, sécuritaires et humanitaires de l'accord proposé, le cabinet de sécurité a recommandé au gouvernement d'approuver ce projet. C'est ce qu'a indiqué le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, ajoutant que les premières libérations d'otages devraient avoir lieu dimanche. La première phase comprend un cessez-le-feu total, d'après le président Joe Biden, la libération de 33 otages, un retrait israélien des zones densément peuplées et une augmentation de l'aide humanitaire. Israël, de son côté, libérera des centaines de prisonniers palestiniens, a indiqué Biden. La deuxième phase doit permettre la libération des derniers otages avant la dernière étape consacrée à la reconstruction de Gaza et à la restitution des corps des otages morts en captivité. L'accord a été débloqué à l'approche du retour lundi de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président élu a assuré qu'il n'aurait jamais été conclu sans la pression exercée par lui et sa future administration. La guerre a été déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, faisant 1210 morts côté israélien selon les données officielles israéliennes. Sur 251 personnes enlevées, 94 sont toujours retenues en otage à Gaza, dont 34 sont mortes selon l'armée. Plus de 46 000 personnes ont été tuées dans la campagne militaire israélienne de représailles dans la bande de Gaza, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.
À 3 jours de la fin de son mandat, le président Joe Biden a annoncé ce vendredi avoir commué près de 2500 peines de condamnés pour les délits non violents liés à la drogue. Il affirme être le président américain ayant accordé le plus de grâces et de commutations. Le point avec Eric Manirakiza.
Le communiqué de la Maison-Blanche ne cite aucun nom. Le dirigeant démocrate, catholique pratiquant, souhaite ainsi, par cet acte de clémence, apporter du réconfort à des individus condamnés à de longues peines de prison fondées sur une distinction qui n'a plus lieu d'être entre le crack et la cocaïne. Joe Biden critique aussi un durcissement dépassé des sentences prononcées en matière de criminalité liée aux stupéfiants. Il avait déjà accordé en décembre 39 grâces et 1500 commutations et commué la peine de 37 des 40 condamnés à mort par la justice fédérale. Joe Biden était également revenu sur son engagement en graciant son fils Hunter Biden, qui attendait de connaître ses peines dans 2 affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. Alors que Joe Biden laissera lundi le bureau ovale à Donald Trump, le président démocrate a également prévenu qui continuerait d'examiner des commutations et grâces supplémentaires, donc avant le 20 janvier. Les présidents américains décident de centaines de grâces et commutations durant leur mandat, avec une accélération notable juste avant leur départ.
La menace numéro 1 pour notre sécurité intérieure, c'est la frontière sud avec le Mexique, a déclaré aujourd'hui Kristi Noem, désignée par Donald Trump pour prendre la tête du ministère américain de la sécurité intérieure, chargée notamment du contrôle de l'immigration. Donald Trump a de nouveau axé sa campagne présidentielle en 2024 sur l'immigration et a assuré que dès sa prestation de serment lundi, il lancerait le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine en utilisant les forces armées si nécessaire. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu par téléphone aujourd'hui avec le président élu des États-Unis. Donald Trump a salué un très bon appel avec le dirigeant chinois et a déclaré s'attendre à ce que Washington et Pékin puissent résoudre, je cite, de nombreux problèmes ensemble. La Cour suprême américaine a validé à l'unanimité une loi menaçant d'interdire TikTok si sa maison mère chinoise ByteDance ne vend pas l'application, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. La loi adoptée par le Congrès en avril et promulguée par Joe Biden fixe au 19 janvier la date limite pour cette session, malgré l'opposition de ByteDance qui espère un soutien du président élu Donald Trump favorable à TikTok. L'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan, incarcéré et cité dans 200 affaires, a été condamné aujourd'hui à 14 ans de prison pour corruption. Un réveil important pour le chef de l'opposition pakistanaise. Sa troisième épouse, Bushra Bibi, qui comparaissait libre, a été condamnée à 7 ans de prison dans la même affaire, portant sur des détournements de fonds de leur fondation Al-Qadir Trust. Et puis, en Corée du Sud, les enquêteurs ont demandé aujourd'hui la prolongation de la la détention du président suspendu Yoon Suk-yeol, qui refuse toujours d'être entendu sur sa tentative d'instaurer la cour martiale, la loi martiale du moins. S'il est approuvé par la justice, le nouveau mandat déposé aujourd'hui prolongera probablement sa détention de 20 jours, donnant alors au procureur le temps de formaliser un acte d'accusation. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nathalie Barge.
Le Nigeria a signé un accord avec les États-Unis pour développer le haut débit. L'accord avec l'Agence américaine pour le commerce et le développement prévoit d'évaluer la faisabilité de 90 000 km de fibre optique. Il s'inscrit dans le cadre du plan national du haut débit 2020-2025 du Nigeria, visant à augmenter le taux de pénétration de 40 à 70%. Au Bénin, le gouvernement a approuvé des projets d'aménagement de voiries, pistes et routes en terre. Ils concernent notamment la réhabilitation de l'aménagement de 18 000 km de voiries, dont près de 3 000 km de routes en terre à Savalou dans le sud-est. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du renforcement des réseaux routiers pour faciliter l'accès aux zones de production agricole. L'Institut national de la statistique du Niger affirme que l'inflation dans ce pays a atteint un sommet historique de 15,47% en juin, avant de s'atténuer en fin d'année. Selon les projections de la Banque mondiale, elle devrait se situer à 5,4% ces deux prochaines années. Selon les syndicats, elle serait alimentée par la fermeture de la frontière avec le Bénin, qui abrite un port par lequel transitait 80% du fret destiné au Niger.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
On connaîtra demain samedi les derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF.
Oui, la dernière journée de la phase de groupe se joue demain. Trois billets sont encore à prendre après les qualifications d'Al Hilal SC du Soudan, du champion en titre Al Ahly d'Égypte, l'AS FAR du Maroc, l'Espérance de Tunis et Pyramide FC d'Égypte. Dans la poule A, ça se joue entre le MC Alger 8 points et Young Africans 7 points. Il y aura de la revanche en l'air à Dar es Salaam après la défaite 2-0 des Tanzaniens à Alger en décembre. Dans le groupe B, le Raja Casablanca sera en déplacement à Kinshasa pour affronter Maniema Union déjà éliminé. Le club marocain devra aussi compter sur une bonne performance de son compatriote l'AS FAR, déjà qualifié face au Mamelodi Sundowns. Pour espérer accrocher le train des quarts, les Sud-Africains n'ont besoin que d'un match nul pour se qualifier. Pour notre consultant sportif à Casablanca, Amin Birouk, l'espoir est permis pour le club Rajaoui.
Le Raja va devoir sortir la calculette. Il va falloir battre Maniema par 2-1 et espérer un exploit de l'équipe de l'AS FAR qui se déplace en Afrique du Sud pour affronter des Mamelodi Sundowns revenus du diable Vauvert puisqu'ils ont été surclassés en première mi-temps par Maniema. Mais les Sud-Africains ont fait valoir leur métier et ont gagné 2-1. En déplacement à Kinshasa.
Amin Birouk, consultant sportif.
Erling Haaland prolonge avec Manchester City.
Le buteur norvégien de 24 ans a signé un nouveau contrat d'une durée exceptionnellement longue jusqu'en 2034 avec Manchester City. Erling Haaland avait un contrat qui expirait en 2027. Depuis son arrivée en Angleterre en 2022, il a déjà gagné deux fois le championnat et a contribué au triplé Ligue des champions championnat coupe en 2023. Arrivé en provenance de Dortmund, Haaland a déjà marqué 111 buts en seulement 125 matchs sous le maillot des Citizens. Dès sa première saison, il a inscrit 36 buts en Premier League, battant le record de réalisation en un exercice en Angleterre. Manchester City est toutefois en difficulté cette saison, pointant à la 6e place en championnat. Deuxième meilleur buteur derrière l'Égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, Haaland a inscrit 16 buts en 21 matchs.
Ici en NBA, Oklahoma City frappe fort face à Cleveland.
De choc, il n'y a pas eu entre les deux meilleures équipes NBA de la saison, tant le Thunder d'Oklahoma City, propulsé par Shai Gilgeous-Alexander, a dominé les Cleveland Cavaliers 134 à 114. Une nouvelle fois phénoménale, le Canadien a ébloui la rencontre avec 40 points, 3 rebonds et 8 passes décisives. Les deux équipes, sensation du début de saison, proposent désormais le même bilan, 34 victoires, 6 défaites. Oklahoma City en tête à l'ouest et Cleveland au sommet à l'est. À Washington, les Phoenix Suns ont battu les Wizards 130 à 123. À Sacramento, les Kings sont sortis vainqueurs d'un superbe duel face aux Houston Rockets 132 à 127. Les Rockets restent deuxième à l'ouest, les Kings 9e.
Page de sport VOA Afrique signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui ici VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi vient de donner 15 jours au gouvernement afin de lui présenter un plan progressif pour la levée de l'état de siège dans l'est du pays. La population et des organisations de la société civile réclamaient de longue date la levée de cette mesure jugée improductive. Pour en savoir davantage, Antoine Roger Bolamba, adjoint à Kinshasa, le politologue Bob Kabamba.
Oui, nous avons suivi effectivement le compte-rendu du gouvernement qui a dit effectivement ce que vous venez donc de confirmer, que le chef de l'État a demandé au gouvernement de pouvoir lui remettre dans les 15 jours donc un état des lieux ou bien un plan de sortie en fait de l'état de siège. Ce qu'il faut dire, c'est que cette annonce était attendue pour plusieurs raisons. C'est que dans un premier temps, il faut bien se rendre compte que cette mesure, lorsqu'elle a été prise, elle a été quand même fort contestée par la société civile dans un premier temps, et que la population elle-même n'avait pas du tout été consultée ni impliquée dans cette décision. C'est une décision qui a eu du mal à pouvoir être mise en place, et les résultats qui en ont découlé n'étaient pas satisfaisants. Et les rapports des ONG locales ainsi que des ONG internationales ont souligné que depuis la mise en place de cet état de siège, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup plus d'exactions qui ont été commises par les groupes armés dans les territoires qui étaient sous état de siège. Ensuite, la tension au niveau de la population était tellement forte que les députés originaires du Nord Kivu, les élus du Nord Kivu et de la province de l'Ituri, sont montés au créneau à plusieurs reprises au Parlement pour exiger de pouvoir véritablement arriver à la levée de cet état de siège. Or, cette tension, cette pression devenant de plus en plus forte sur le président Tshisekedi, il va de soi qu'il était évident pour lui de pouvoir satisfaire cette opinion publique. Par ailleurs aussi, il faut souligner que les défaites militaires, l'option militaire qui a été l'option privilégiée par Tshisekedi, n'a pas non plus porté ses fruits, parce que depuis qu'il a commencé l'offensive militaire, dans l'espace état de siège, nous voyons que le M23 et d'autres groupes continuent à proliférer et continuent à gagner de l'espace et contrôler de plus en plus d'espace. Or, une telle décision, pour Tshisekedi, ce serait une bouffée d'oxygène, puisque c'était une demande de la population, ce serait une façon de montrer à la population du Nord Kivu et de l'Ituri qu'il a compris le message et qu'il va progressivement lever cet état de siège.
Pensez-vous à la faisabilité graduelle, comme on a dit, de ce processus?
Oui. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut souligner que, que même s'il prenait cette mesure risque d'être du mal à mettre en œuvre dès l'instant où la police a supposé l'administration militaire. Par ailleurs aussi, il faut souligner que le M23 dans le Nord Kivu contrôle déjà une bonne partie de cette province, et dans les parties qui sont contrôlées par le M23, il n'y a pas d'état de siège, puisque le M23 nomme ses propres administrateurs, nomme ses propres gérants de la chose publique dans les espaces où ils sont en train de conquérir, et généralement ce n'est pas des soldats, c'est plus de civils.
Bob Kabamba, analyste politique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Le cabinet de sécurité israélien a donné ce vendredi son feu vert à l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas dans la bande de Gaza, ouvrant la voie au début de la trêve dimanche et à la libération le même jour des premiers otages. Mise en perspective, Linda Grashtein depuis Jérusalem, le récit est de Lionel Gaïma.
Les Israéliens attendent avec impatience la libération de 98 otages, vivants ou morts, que le Hamas détient depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le groupe militant a tué 1200 personnes lors d'un raid sur le sud d'Israël. Dans la première phase de l'accord de cessez-le-feu, qui doit entrer en vigueur dimanche, le Hamas libérera 33 otages, des femmes, des enfants et des personnes âgées, dont deux personnes ayant la double nationalité américano-israélienne. Israël libérera, pour sa part, des centaines de prisonniers palestiniens. Toutefois, certains Israéliens doutent que le Hamas tienne ses promesses. Jusqu'à présent, le groupe palestinien a refusé de fournir une liste des otages encore en vie. Le cousin d'Oudi Goren, Tal Haimi, a été tué au combat le 7 octobre 2023 et son corps a été emmené à Gaza.
Que se passerait-il lorsque le Hamas dira « Nous ne pouvons pas trouver votre cousin. Désolé, nous ne savons pas où il se trouve. Qu'allons-nous faire ? Rompons-nous l'accord ? Avons-nous le soutien de la communauté internationale ? Les garanties qui nous ont été données nous assurent que si c'est ce que fait le Hamas, alors l'accord prend fin. »
Certains analystes israéliens disent qu'il n'y a aucune garantie de parvenir à un accord final. Jonathan Conricus est un ancien porte-parole de l'armée israélienne.
Nous savons que les cessez-le-feu peuvent devenir temporaires, puis moins temporaires et plus permanents. Ce serait un très mauvais scénario pour Israël, pour la sécurité israélienne. Ce serait horrible pour les Gazaouis parce que cela les laisserait dans une situation provisoire où d'un côté le Hamas continue de gouverner et le Hamas est toujours aux commandes. Mais où le Hamas est trop faible pour faire quoi que ce soit d'utile pour Gaza.
To actually do anything useful for Gaza.
Les Palestiniens de Gaza se disent heureux de voir la fin de 15 mois d'attaques israéliennes qui, selon le Hamas, ont tué plus de 46 000 personnes et décimé le territoire. Fadi Naïm, un habitant de la ville de Gaza, dit qu'il est heureux de retourner chez lui, mais que la population a perdu de nombreux membres de sa famille.
Je me suis senti tellement heureux, mais en même temps, une profonde tristesse m'a envahi. Nous retournons chez nous, mais nous avons perdu nos petits-enfants, nos pères, nos frères, nos cousins, nos voisins et nos maisons.
Le Programme alimentaire mondial a fait état de 80 000 tonnes de nourriture en attente à l'extérieur de Gaza ou en cours d'acheminement. Pendant ce temps, les Palestiniens affirment que les attaques israéliennes sur Gaza se poursuivent. Selon le ministère de la Santé du Hamas, au moins 80 Palestiniens ont été tués par des frappes aériennes israéliennes depuis mercredi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu américain Donald Trump souhaite que les États-Unis deviennent le leader mondial de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. À cette fin, il a confié la responsabilité de ces deux secteurs à un entrepreneur et investisseur de la Silicon Valley. Michel Quinn fait le point, le récit est de Dilly Dico.
Le président élu Donald Trump a nommé David Sachs comme conseiller de haut niveau à la Maison-Blanche en matière d'intelligence artificielle et de crypto-monnaie. Donald Trump a déclaré qu'il attendait de Sachs qu'il aide les États-Unis à s'éloigner de ce qu'il appelle les préjugés et la censure des Big Tech. John Pellicero, professeur d'éthique à l'université Santa Clara, estime que David Sachs a du pain sur la planche.
Le défi pour quiconque sera d'essayer de gérer deux technologies émergentes et des méthodes de financement qui évoluent rapidement.
David Sachs a décliné une demande d'interview, mais il a souvent parlé de la nécessité de limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques.
Nous n'aurons pas un écosystème de start-up sain, nous n'aurons pas la liberté d'expression et nous n'aurons pas de concurrence entre les différents fournisseurs pour essayer d'être un lieu plus innovant.
Sachs a également évoqué le potentiel de la crypto-monnaie.
Ce que le Bitcoin offre, c'est un type de monnaie différent qui n'est pas soutenu par un gouvernement, mais par les mathématiques et le cryptage. Je pense que beaucoup de gens pourraient, avec le temps, penser qu'il s'agit d'une meilleure forme de monnaie.
Les régulateurs de l'administration Biden ont exprimé leurs inquiétudes quant au marché des crypto-monnaies et aux risques financiers potentiels qu'ils représentent pour les investisseurs. Pour leur part, les défenseurs des crypto-monnaies se réjouissent que Donald Trump accorde la priorité à ce secteur en plein essor.
Il sera très important d'avoir quelqu'un qui puisse jouer le rôle de coordinateur pour s'assurer que les bonnes agences se parlent et intervenir si celles-ci sont en désaccord sur quelque chose.
Sachs influençant la politique alors que sa société de capital risque poursuit des investissements dans la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle peut soulever des questions éthiques, estime Pellicero.
Il sera difficile pour le public de savoir si la façon dont l'administration Trump va aborder la politique en matière d'IA ou des crypto-monnaies sera faite dans l'intérêt du public.
Selon les médias, David Sachs travaillera à temps partiel à la Maison-Blanche et n'aura pas besoin d'être confirmé par le Sénat américain.
Le 20 janvier 2025, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis et retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait perdu en 2020.
Suivez en direct sa prestation de serment sur toutes les plateformes de VOA Afrique.
Reportage, analyse et compte-rendu en direct de nos reporters sur le terrain.
Ne ratez pas notre couverture complète à partir de 16h temps universel sur Facebook et à la radio.
À la télé, nous vous proposons une édition spéciale du Monde aujourd'hui de 19h30 à 20h temps universel.
L'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis, c'est le 20 janvier 2025 sur VOA Afrique.
À présent, direction Tunis, pour esquisser quelques pas de danse, la plus grande compétition internationale de hip-hop, le concours Juste Debout, a fait une halte dans la capitale tunisienne. Le week-end dernier, les meilleurs danseurs tunisiens de hip-hop se sont affrontés pour une qualification à la finale de la compétition prévue pour mars prochain à Paris. Yacouba Oudraougou.
Les beats retentissent sur l'immense scène de l'Opéra de Tunis. Les danseurs s'affrontent pour la plus grande compétition internationale de hip-hop jamais organisée dans un pays arabe, le concours Juste Debout qui a fait escale à Tunis le week-end dernier.
C'est important cette étape tunisienne parce que c'est la première étape du Maghreb en Tunisie. Et voilà, c'est vraiment pour moi une étape super importante. Parce que c'est la première fois en 23 ans qu'on vient au Maghreb.
En plus de Tunis, cette année, ce concours de danse urbaine exclusivement effectué debout, d'où son nom, se déroule dans 8 villes dans Londres, New York, Pékin, Tokyo. Le danseur et chorégraphe franco-camerounais Bruce Ikandji, qui a créé Juste Debout en 2002, est admiratif des plus de 200 garçons et filles qui ont participé à la compétition.
Juste Debout, c'est un événement international, planétaire. On va en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe. On récupère les meilleurs danseurs du monde entier et on fait la finale à l'Accor Arena à Paris le 2 mars.
Les participants s'affrontent dans 4 sous-catégories: popping, locking, hip-hop et dance house. Mais l'événement organisé à Tunis ne se résume pas à un concours de danse. L'idée, c'est de montrer la résilience de la jeunesse dans un contexte morose, selon Sihem Belkodja, chorégraphe tunisienne organisatrice de l'étape dans son pays.
Premièrement, Juste Debout, parce qu'on avait besoin d'être debout, que ce soit en Tunisie, que ce soit dans tous les pays arabes. C'est vraiment ce terme-là qui m'a fait tilter au niveau de la jeunesse. Juste Debout, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Palestine, partout dans le monde, dans l'Ukraine et tout ça, il faut que ces jeunes ne soient pas du tout déprimés et qu'ils restent debout. Et il n'y a pas mieux que la danse comme résistance.
À côté du concours, des ateliers ont permis à environ 400 amateurs ou débutants de s'adonner aux divers styles proposés. Le gagnant de l'étape de Tunis va représenter son pays à Paris le 2 mars prochain, devant 17 000 spectateurs lors de la grande finale mondiale. Sport additionnel aux Jeux Olympiques parisiens, la discipline n'a pas été retenue par le comité d'organisation des Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.